48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Bonjour et bienvenue pour ce 23e MAG de 48 FM en direct de nos studios de la Place au Blé, 23e donc magazine avec 5 invités autour de la table aujourd'hui pour 3 sujets. C'est, on ne change pas la recette de cette émission. À la technique aujourd'hui et comme modérateur, nous avons Ludovic. Bonjour.
Oui, bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Et donc, pour ce nouveau mag, étant donné que Nicolas est au ski et donc il ne parlera pas de culture aujourd'hui dans le poste, nous avons invité plusieurs invités culturels. Ils sont 4 autour de la table. Donc, on profite, mais on risque d'être à sec de questions parce que vous savez, il y a un tic dans cette émission, c'est quand l'autre animateur qui est avec Nicolas n'a plus de questions, il fait une question, Nico. Voilà, donc ça, on ne pourra pas aujourd'hui
utiliser. Il invente des questions.
Ouais. On ne pourra pas aujourd'hui jouer ce coup-là. Alors nos invités aujourd'hui, on va parler effectivement donc de culture avec Philippe Rochou, le président de la commission culture au Conseil général de la Lozère, qui est accompagné d'Isabelle Darnasse, la directrice de l'enseignement des sports et de la culture au Conseil général, et qui est donc qui pilote au sein de cette direction le portail culturel du Conseil général. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Nous parlerons ensuite, avant de reparler de culture, nous irons faire un peu de plein air, nous irons parler de pêche avec Laurent Suot de la Fédération de pêche de la Lozère. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, c'est l'actualité du week-end qui arrive avec l'ouverture, c'est ça, hein ?
En plein.
Voilà. Et puis nous terminerons avec aussi de la culture avec la compagnie 1, 2, 3 Soleil, avec donc Serge Lacan et Monique Dupré qui sont autour de la table. Bonjour.
Bonjour.
Alors on commence tout de suite ce 23e MAG avec le portail culturel. Peut-être vous pouvez nous parler du principe même de ce portail. Pourquoi avoir mis en place cette action et un petit peu les origines de ce projet.
Les origines ne sont pas très vieilles. Elles datent de l'année dernière, du printemps dernier. Ça fera à peu près un an que l'idée a germé au sein de la direction et bien sûr en partenariat avec les élus qui sont décideurs, de vouloir en fait rassembler sur un portail toutes les informations culturelles du département, donc bien au-delà de l'action du Conseil général, puisque l'objectif était aussi d'annoncer des spectacles et des événements pas forcément financés par le Conseil général. Donc pour cela, on a recruté une personne, donc Marie Velay, qui est maintenant dans ma direction et qui a été la cheville ouvrière donc de ce portail avec une société technique, bien sûr, pour mettre en place le site Internet. Donc l'ouverture est récente, 1er février, donc c'est pareil, c'est presque un anniversaire. Ça fait un mois tout juste qu'il est ouvert au public et on vous invite à le visiter surtout.
Alors on va donner tout de suite l'adresse peut-être et puis comme ça les auditeurs qui nous écoutent vont pouvoir allumer leur ordinateur pour regarder ça en même temps qu'on en parle. Donc c'est l'adresse.
Elle est très simple, c'est culture.lozère.fr.
Voilà, donc déjà, là, les choses sont prêtes. Allumez vos ordis, allez-y, prenez vos tablettes, foncez sur le site. Première étape.
On va surtout balancer sur Marie Velay qui n'a pas voulu venir, qu'on salue, qui nous écoute.
Voilà, c'est la radio, c'est toujours parfois un peu impressionnant. Et après, on s'y fait très bien, je vous le dis, c'est un témoignage personnel. Alors, comment est construit ce portail? Qu'est-ce qu'on y retrouve dessus?
Alors en fait, il y a deux entrées parce qu'il nous semblait important d'aborder les événements sous ces deux entrées. D'une part, un gros onglet pour ceux qui l'ont sous les yeux, un gros bouton qui s'appelle sortir, puisqu'en fait, un des principaux objectifs de ce portail, c'est de trouver les événements, se dire, samedi, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a à voir. Et on peut, par cet onglet-là, faire une recherche assez rapide, à la fois par les lieux ou par des thématiques. Les thématiques qui peuvent être la danse, la musique, le théâtre, voilà. Et puis la deuxième entrée est possible, c'est un deuxième onglet, un gros bouton également sur la page d'entrée qui s'appelle pratiquer, puisqu'il y a la partie sortir spectacle et aussi la pratique amateur ou pratique professionnelle comme l'on veut, et où on peut donc voir tous les stages, toutes les possibilités d'enseignement artistique qu'il y a sur le département, toutes les associations donc, qui prodiguent ces enseignements.
Alors, il y a aussi des quiz, si j'ai bien vu.
Voilà, alors, c'est un petit clin d'œil un peu aux internautes pour donner un petit peu l'habitude et l'envie de venir régulièrement sur ce portail. Donc, la mise en place d'un quiz, donc avec des questions et surtout des choses à gagner, c'est bien l'intérêt.
Donc, alors, qu'est-ce qu'on gagne ?
Alors, on peut gagner, bien sûr, des places à certains spectacles. Et là, on ne peut que remercier les associations qui émargent à ce portail, parce que régulièrement, ils nous proposent des entrées gratuites à certains spectacles. Et donc, on les fait gagner sur le quiz. Mais ça peut être aussi des livres, ça peut être aussi des DVD. Voilà. Enfin, en tout cas, en allant sur le quiz, vous savez pourquoi vous jouez, pour où vous jouez, parce qu'on a quand même localisé les lieux. Hein. C'est vrai que quelqu'un qui habite à Saint-Germain-de-Calberte, s'il gagne une place à Saint-Chély, ça pourrait être compliqué. Donc, on a quand même précisé les lieux pour que les gens sachent sur quoi ils jouent et pourquoi ils jouent.
Est-ce que l'on gagne des cartes de pêche ?
Non, pas encore.
Mais ça va venir.
Ça va venir, ça va arriver. C'était un manque de ne pas avoir de site internet qui regroupe l'ensemble des activités culturelles en Lozère, Philippe Rochon ?
Il existe, la plupart des opérateurs, des acteurs culturels du département ont effectivement leur site. Mais il était important que nous puissions proposer une entrée commune, un portail commun pour l'ensemble de ces sites, l'ensemble de ces acteurs, pour que les usagers, le public puisse d'un seul clic, je dirais, avoir accès à toute l'offre culturelle du département. Je fais juste remarquer qu'on a eu un retour absolument exceptionnel de la part des acteurs culturels du département. Tout le monde a participé à l'élaboration de ce portail. Et c'est grâce à eux que ce portail est quelque chose de complet et une offre vraiment complète, un panorama complet de l'action culturelle dans le département.
On pense de suite aux Lozériens qui vont pouvoir s'approprier ce site, mais c'est également un site en direction des personnes extérieures au département, peut-être pour leur dire, l'été, il se passe des choses en Lozère, venez passer vos vacances.
Et l'hiver est l'année.
Et l'hiver est l'année aussi.
On peut venir aussi s'installer.
Je pense aux touristes des vacances estivales, mais c'est aussi un moyen de peut-être faire venir des gens supplémentaires dans notre département.
C'est sûr que c'est un moyen de communication, bien sûr, qui est plus que large, qui est total. Alors, bien évidemment, ça s'adresse aux Lozériens. C'est un bel outil pour les Lozériens qui aiment sortir, qui veulent savoir au fur et à mesure tout ce qui se passe. Mais c'est aussi une fabuleuse vitrine culturelle pour le département, à la fois pour le tourisme, mais je dirais aussi pour les populations qui veulent venir s'installer, etc., et qui veulent connaître mieux le département avant de se décider. Mais voilà, je crois qu'on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais la question de l'attractivité du territoire par la culture, qui est un élément déterminant dans le projet, dans la politique culturelle du département.
J'ai vu sur le site 1, 2, 3 Soleil qu'il y avait un lien justement vers le portail culturel.
Oui, absolument. Moi, ce que je pourrais ajouter à ce que vient de dire Philippe Rochou, c'est qu'en fait, ce site-là, c'est un peu, ça montre la respiration. C'est ce mot qui me vient, le mot respiration. La culture, c'est la respiration de l'être, c'est la respiration aussi d'un pays ou d'une région ou d'un département. Et je trouve, moi, pour avoir été le visiter, que ça montre bien comment la Lozère respire au niveau culturel, et par-delà le niveau culturel, d'un point de vue humain, quoi. Voilà.
Une bien belle définition.
Oui, c'est effectivement assez flatteur et c'est très sympa. Je voudrais aussi revenir sur un autre élément qu'on n'a peut-être pas évoqué tout à l'heure sur le site. C'est des zooms aussi qui sont faits sur certains acteurs, sur certaines opérations, sur certaines actions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Alors, bon, j'ai juste parlé des entrées, en fait, pas de contenu.
Oui, voilà.
Donc, en fait, oui, en termes de contenu, vous avez un agenda qui est à jour. Vous pouvez à la fois voir ce qui va se passer demain et ce qui va se passer dans l'année pour notamment les associations qui ont une programmation annuelle. Donc, ça, c'est important. Donc, les Zooms dont vous parlez, ça, c'est très important. C'est ce qui va permettre aussi de faire peut-être la respiration dont monsieur parlait à l'instant. Tous les 15 jours, 3 semaines, donc Marie, qui est notre cheville ouvrière sur le site, concocte des Zooms sur des thématiques qui peuvent être aussi diverses que des acteurs, des compagnies, un événement spécifique. Par exemple, là, on va avoir un Zoom sur les rencontres de cinéma de Florac, là, des ciné-clubs de Florac. Le mois dernier, il y avait un gros Zoom sur Franck Vigroux, donc l'artiste associé des scènes croisées. Voilà, il y a des thématiques comme ça qui sont importantes, sous forme soit d'interviews, soit de petits reportages, et qui vont être renouvelées très régulièrement. et qui sont un peu des approfondissements en fait à la simple
information. Oui, c'est pas, ce n'est pas qu'un simple agenda finalement.
Non, non, ça va bien au-delà. De même qu'on a une présentation aussi des compagnies. Hein. Il y a un onglet qui s'appelle Nos acteurs où on a justement voulu présenter les différentes compagnies de théâtre, de danse qui ont pignon sur rue dans le département et montrer qu'on est très très loin d'être un désert culturel. Et j'insiste sur le fait qu'il y a vraiment des événements toute l'année, hein, hiver comme été. Et ça va bien au-delà de la fréquentation touristique, même si, bien sûr, l'objectif, c'est aussi que les touristes puissent se rendre sur les spectacles.
Il y a aussi, je crois, un onglet sur la politique culturelle du département. Mm-hmm. Alors, ça peut peut-être être la suite de cet entretien d'une façon un peu plus globale. C'est finalement, quelle est la stratégie du département par rapport à la culture ?
Les enjeux, c'est effectivement de pouvoir développer sur le département de la Lozère une politique culturelle de qualité, une politique culturelle riche. Alors, pour cela, il y a des éléments qui sont assez incontournables. D'une part, la professionnalisation qui est nécessaire pour la pérennité, bien sûr, mais aussi pour la qualité. Et puis, on est dans un département rural avec un département qui est habité partout, donc il faut que la culture rayonne partout sur les départements. Et là, c'est le deuxième élément, à côté de la professionnalisation, il faut aussi soutenir les réseaux associatifs, parce que ce sont eux qui vont pouvoir porter et diffuser. On l'a vu récemment, il y avait Contes et Rencontres qui s'est déroulé un peu partout sur le département. Les foyers ruraux, c'est un réseau de 70 associations, donc ça illustre la nécessité de soutenir les réseaux associatifs sur le département, mais à côté de ça, d'avoir donc des professionnels qui puissent porter, pérenniser et donner une qualité certaine à l'offre culturelle. Alors je crois que aujourd'hui, le département s'est positionné clairement dans cette direction, avec un certain nombre de programmes de soutien financier, mais pas que. Il y a aussi, on vient d'en parler longuement, le portail culturel qui est un élément. C'est pas une subvention qui est donnée, mais c'est un financement qui est apporté par le département pour promouvoir l'offre. Mais c'est aussi soutenir les différents acteurs du département. Donc, les choses ont bien évolué. Isabelle Darnas a fait remarquer qu'on n'est pas du tout dans un désert culturel, puisqu'il y a aujourd'hui, on le voit à travers le portail, notamment une offre importante et une offre de qualité. Et pour ça, on s'appuie sur le réseau associatif et puis aussi sur des pôles qui sont appelés à se développer, des pôles de diffusion, de création, de résidence, dans toutes les disciplines culturelles, hein, que ce soit dans les arts vivants ou dans les arts plastiques ou autres. Et donc le Conseil général accompagne cette structuration en partenariat avec les autres acteurs institutionnels. Donc se développe maintenant sur le département, on l'a vu, le théâtre de la mauvaise tête qui est bien connu sur Marvejol, mais qui est un lieu de diffusion, de création, de résidence. Un nouveau lieu qui est le ciné-théâtre de Saint-Chély-d'Apché. La Jeunette Verte aussi a un travail actuellement d'organisation et de structuration qui se fait et qui est intéressant. Sur Langogne, il se passe aussi des choses. Petit à petit, un peu partout sur le département, on voit émerger des pôles forts qui vont rayonner et qui vont porter sur les différents secteurs la vie culturelle.
Et puis, sans oublier Mande, Philippe.
Oui, sans oublier Mande, évidemment. Mais je... Monsieur l'adjoint au maire me fait remarquer que j'ai oublié Mande, mais on n'oublie pas Mande.
Il est attentif et les scènes croisées de Lozère, dont vous avez signé une convention la semaine dernière de plus de 2 millions pour les 3 prochaines années.
Voilà. Alors, scènes croisées, c'est une solution originale qui a été mise en œuvre il y a déjà maintenant une dizaine d'années. C'est une scène conventionnée itinérante, on va dire, et donc d'où la nécessité de s'appuyer sur ces pôles que j'ai indiqués tout à l'heure. Et je n'oublierai pas Mande parce que c'est un partenaire également important à la fois des scènes croisées et puis bien sûr de l'action culturelle. Et puis après, il y a un certain nombre de manifestations qui ont lieu un peu partout aussi dans le département et qui sont de belles vitrines. Mais je voulais revenir sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure, je crois qu'aujourd'hui, on a conscience et on voit, on a des exemples sur le département de ce que la culture peut être effectivement un élément déterminant de développement et d'attractivité du territoire. Parce que faire venir des nouvelles populations, ça ne peut se concevoir bien sûr que, qu'avec bien sûr de l'emploi, du logement, etc., mais aussi des services et aussi une offre culturelle importante. Et je crois qu'aujourd'hui, ça n'échappe à personne. Et nombreuses sont les collectivités aujourd'hui qui ont pris conscience de cela et qui s'engagent dans des projets de développement culturel au niveau local.
Quel est le budget alloué par le département justement à tout ce qui est culture ?
Écoutez, le budget sur les crédits d'aide au fonctionnement, hein, on est aujourd'hui à 1 150 000 euros. Voilà, par rapport au budget du département et par rapport à la taille du département, on est effectivement sur un budget conséquent. On est parmi les départements français qui, en fonction du nombre d'habitants, accordent le plus d'aide au développement culturel. Je crois que voilà, il y a une continuité, il y a eu une politique culturelle engagée il y a une vingtaine d'années et qui aujourd'hui continue à porter ses fruits.
Ça représente... Ça représente combien en pourcentage sur le budget global du département de la culture ?
Alors ça, c'est une bonne question.
140 millions d'euros.
Ouais, voilà.
Le budget du département, c'est 140 millions d'euros. Donc si la culture, voilà, c'est un peu plus d'un million d'euros, ça fait 1%. Quoi.
Voilà.
Sachant qu'il y a aussi un soutien aux opérations d'investissement sur le ciné-théâtre, sur un nombre de projets qui émerge.
De toute façon, on sait que la culture est toujours le parent pauvre avec le sport, des politiques, des institutions et l'environnement. ça remonte l'environnement un peu. Mais c'est vrai, en tant que président de la commission culture, on se bat tous les jours pour obtenir des dotations supplémentaires pour qu'il y ait des opérations.
Évidemment, il faut se battre. Mais je crois qu'on est aujourd'hui dans un contexte qu'on connaît partout, dans tous les départements, un contexte difficile avec des budgets qui diminuent, des charges, des compétences obligatoires dont la charge s'accroît. Et c'est vrai que c'est pas facile, les arbitrages budgétaires ne sont pas faciles. Moi, en tout cas, je me réjouis que sur le département, on ait pu maintenir, on a même augmenté très légèrement l'année dernière notre budget culture. Voilà, là encore... Bon, c'est lié aussi à la situation financière du Conseil général de la Lozère, mais on est aujourd'hui dans une situation qui on n'a pas de grande marge de manœuvre, mais on arrive quand même à maintenir une dynamique budgétaire dans notre commission.
Alors c'est intéressant d'avoir un des acteurs culturels du département avec la compagnie 1-2-3-Soleil. Peut-être votre point de vue un peu sur tout ce qui est... rapidement, politique culturelle en Lozère ou même en France, on peut voir plus loin.
Alors oui, justement, moi j'avais plein de choses à dire, mais comme on va avoir un temps de parole tout à l'heure, donc je ne voulais pas faire doublon. Moi je pense que la politique culturelle au niveau département est très importante. C'est pas, je ne dis pas ça pour faire plaisir à mon voisin, qu'il y a une vraie reconnaissance de la part du politique, mais qui n'est pas assez importante, effectivement. Mais ça, on rejoint ce qui était dit tout à l'heure au niveau national, quoi, la question de la réalité économique de notre pays. Ce que je voudrais dire, par contre, ce qui, moi, m'interroge beaucoup plus, c'est la répartition des moyens. C'est-à-dire qu'actuellement, pour parler clairement, en Lozère, il y a une structure qui reçoit la grosse majorité des moyens financiers, pour ne pas le nommer les scènes croisées, et que, en ce qui concerne, par exemple, mon travail de création, chaque fois que j'ai fait appel aux scènes croisées, ça a toujours été un refus d'aide, un refus de, je vais même plus loin, hein, un refus de, enfin une non-reconnaissance de notre travail dont je parlerai tout à l'heure et qui pour moi est important, pas que pour moi d'ailleurs.
Peut-être voilà. Que vous ne rentrez pas dans le cahier des charges des scènes conventionnées qui poussent à...
Oui, peut-être, mais on peut s'interroger sur quelle est la politique culturelle sur le fond qui est mise en place. Effectivement, il y a la question de la vitrine dont parlait tout à l'heure... Philippe Rochou, qui est importante de montrer aussi la richesse culturelle du département. Mais il y a tout le travail de fond, de formation, d'émancipation au travers de la culture des êtres humains qui ne sont pas que, qui ne doivent pas être que des consommateurs de culture, mais aussi des acteurs. La culture, la pratique artistique, que ce soit à l'école, que ce soit dans tous les lieux où il y a des gens, est importante et participe du développement intelligent d'un pays. C'est-à-dire, bien sûr qu'il faut manger, bien sûr qu'il faut, il faut se vêtir, se loger, etc. Mais que pour les Lozériens comme pour les autres, la question de l'intelligence culturelle est importante et participe de tous les choix qui peuvent être faits.
Philippe Rochou.
Oui, moi, ce que je voulais dire, bon, sur le projet artistique des scènes croisées, donc, comme toute scène conventionnée, la structure doit présenter un projet artistique et notamment à ses partenaires institutionnels et notamment l'État. Donc moi, je pense que les choses ne sont pas fermées, forcément. Enfin, c'est pas à moi de répondre, mais je pense pas que les choses soient fermées complètement. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'au niveau du Conseil général, depuis 3-4 ans, nous avons décidé de répartir les aides au sein de différents programmes pour bien identifier les éléments de notre politique culturelle. Et nous avons notamment mis en place, il y a 2 ans maintenant, un programme d'aide à la création artistique, donc qui peut permettre aussi aux compagnies de nous présenter des projets. Donc c'est un programme un peu nouveau. Et puis en 2012, nous venons de voter un nouveau programme qui est un programme d'aide à la pratique amateur. Voilà, donc ça complète un petit peu, si vous voulez, la panoplie des interventions où on essaie de couvrir l'ensemble du champ de la vie culturelle.
Bien, merci pour ce premier sujet. On a eu des éléments de débat, on y reviendra bien sûr dans la troisième partie de l'émission avec un 2-3 soleil. Je vous propose une petite pause musicale. Et qu'est-ce qu'on écoute, Ludovic ?
Alors, on va écouter la chanson « La petite voleuse » d'Olivia Ruiz.
C'est parti.
Quand je serai grande, je serai voleuse. J'ai déjà commencé, c'est assez marrant. Je dois avoir le don et la main heureuse. Le doigt est précis et l'œil vigilant. Je me suis bien juré de voler de tout. Voler pour voler, pour l'amour du geste. Faire ça difficile, c'est manquer de goût. On peut être doué et rester modeste. Faut pas croire pourtant que je manque d'ambition. Je me ferai les palaces, les soirées mondaines, à ce pont du fric, tirer du pognon. C'est assez moral et ça paye sa peine. Je volerai des billes, de la pécadille, des oui et des non pour le grand frisson. Je volerai des trucs, des engins caducs, des machins bizarres et des œuvres d'art. Je prendrai sans remords leurs bagues aux morts et bien entendu leurs cordes aux pendus. En volant le beurre et l'argent du beurre, je ferai mon profit du bien mal acquis. La petite voleuse n'a qu'une loi, ce qui est à toi est à moi. J'aurai un costume velours et satin, noir comme la nuit, faut rester discrète. Un loup sur le nez et des gants aux mains, moitié fantomas, moitié fantomène. Comme une référence pour les tire-laine, les vies de gousset et les montes en l'air. Je me vois assez bien traitée comme une reine, secrète et rusée par la paix grandière. Mais toujours toute seule, comme sont les vrais faux. Je partagerai pas, je garderai le butin. Et je ne serai, tant pis pour les pauvres, ni Robin des Bois, ni Arsène Lupin. Je volerai du fer blanc, de l'or, des diamants, des bijoux, des chaînes, le collier de la reine. Je volerai sûrement l'orange du marchand pour porter bonheur à un raton laveur. Je volerai encore le jour de ma mort tous les portefeuilles de la famille en deuil. En volant le beurre et l'argent du beurre, je ferai mon profit du bien mal acquis. La petite voleuse n'a qu'une loi. Ce qui est à toi est à moi. Et si vient un jour où je me fais poisser devant le tribunal, je me démontrerai pas. Je n'ai que le goût, messieurs les jurés, du travail bien fait et de l'artisanat. Que nous dit le monde si nous l'écoutons? La bourse ou la vie et les mains en l'air. Ainsi font, font les fonds de pension, les marchands du temple et leurs actionnaires. Faut pas s'étonner que ça fasse des envieux. On n'a pas besoin de tout cet étalage. À force de dire moi aussi j'en veux, on va tous finir dans le cambriolage. On volera des billes, des baisers aux filles, des petits bonbons, des bonbons à neutrons. Passer à la caisse, on prend que les espèces, et à l'occasion quelques stock options. Qu'on soit voleur ou spéculateur, on met nos arnaques dans le même sac. En volant le beurre et l'argent du beurre, on fait son profit du bien mal acquis. La petite voleuse n'a qu'une loi, ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à moi.
FM Le Mag.
Et nous nous retrouvons pour ce 23e Mag de 48FM avec un deuxième sujet. On va quitter la culture pour y revenir tout à l'heure. Et on va aller, on va sortir un petit peu de notre salle de spectacle pour aller au bord d'un lac ou au bord d'une rivière et parler de pêche. Et donc, effectivement, la saison ouvre ce week-end, mais elle a déjà ouvert aussi sur les lacs de Villefort et de Naussac il y a quelques jours. Comment ça s'est passé?
Pour moi, on ne sort pas tellement du sujet de la culture, puisque la pêche, c'est un élément patrimonial et de la culture locale.
Mmh, bien sûr.
Et de l'histoire locale. Donc, on pêche depuis des temps immémoriaux en Lozère. Au fil du temps, ça s'est développé, c'est devenu aussi un outil de développement économique et de développement touristique. Et c'est bien pour le département qui en a bien besoin. La pêche, oui, effectivement, elle a ouvert donc le 16 février à Naussac et puis le 23 février, le lac de Villefort aussi qui a ouvert, dans des conditions très très moyennes, puisque Naussac s'était gelé, Villefort il faisait un froid de canard et un temps très très hivernal. Ce week-end, ça s'annonce quand même beaucoup mieux. Et là, on ouvre tous les cours d'eau, rivières et autres lacs du département, sauf le lac de Charpal, qui l'ouvrira que le 1er mai.
Charpal qui est en Oquille, non?
Charpal qui est, depuis 2007, a réouvert la pêche intégralement en Oquille. Je ne referai pas l'histoire, mais on a, dans le cadre d'analyses sur des poissons qui avaient été faits en 1998 et 1999, donc il y avait des contaminations au mercure de ces poissons. Donc la pêche a été interdite pendant un certain nombre d'années, puis petit à petit, en travaillant, on a réussi à faire admettre à la mairie de Mende alors et à la préfecture aussi qu'on pouvait aller vers une gestion de la pêche par effectivement une mise en no-kill, c'est-à-dire que tous les poissons qui sont capturés sur le lac de Naussac, de Charpal, pardon, doivent être obligatoirement remis à l'eau.
Oui, ça c'est une spécificité de la Lozère, c'est parcours no-kill, on en retrouve un peu partout sur le département.
Oui, ça a été une volonté du président Alain Bertrand au début des années 90, effectivement, d'aller dans ce sens-là, parce qu'il y avait une demande des pêcheurs. Et donc, on a été vers un développement des parcours sanctuaires en rivière, au départ, spécialisé au départ mouche, exclusivement. Et puis maintenant, on retrouve divers parcours où on peut y accéder aussi bien à la mouche, au lancer ou au toc.
Mmh. Il y a des
ça, c'est la volonté des associations locales qui permet le développement de ce type de parcours. Ça fait toujours jaser à droite et à gauche. Certains, il y a des partisans, il y a des détracteurs. Enfin bon. Ça fait une réelle vitrine de communication sur l'extérieur. Ça, c'est certain. Comme Charpal, par exemple, 190 hectares. C'est le plus grand no-kill de France, même d'Europe, je pense. Donc ça, effectivement, ça fait parler ailleurs.
Et ça fait venir aussi les gens. On se rappelle du championnat du monde de pêche à la mouche junior l'été dernier.
Oui, c'était quand même dans un cadre différent. Effectivement, c'était un championnat qui se déroulait aussi en no-kill, mais ce n'était pas parce qu'on avait des parcours en no-kill déjà de présent dans le département de la Lozère. C'était la qualité intrinsèque des cours d'eau de Lozère qui ont fait qu'on a pu organiser ce championnat du monde junior.
Les pêcheurs ont répondu présents. Est-ce que au niveau des cartes de pêche, donc on sait que le plus gros des ventes doivent démarrer maintenant avec la pêche en rivière, on se situe où pour l'instant?
On peut difficilement faire moins bien que l'année dernière, puisque l'année dernière, à la même époque, je vous rappellerai qu'on était à une situation d'étiage très 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 sévère, qu'il avait fait qu'un petit épisode pluvieux fin 2011. Il n'y avait pas eu de neige, et donc on était vraiment... Il avait fallu attendre le mois d'avril, autour du 20 avril, pour avoir des pluies, et après en abondance, parce qu'il y avait eu un printemps et un été relativement bon, voire très bon. Et cette année, on est quand même, au niveau de l'hydrologie, on est quand même beaucoup mieux loti, même si la situation est contrastée entre la Margerie et l'Aubrac, où les précipitations neigeuses de l'hiver, on n'est pas loin d'un cumulé d'un mètre de neige, donc ça fait que les rivières sont plutôt bien, même très bien. Et de la vallée du Lot au sud du département, c'est plus mitigé, c'est déjà plus... La situation est bonne, mais il va falloir qu'il pleuve.
Y a-t-il de l'eau à Chanac, monsieur le maire, pour les pêcheurs?
Il y a de l'eau, effectivement. Bon, je trouvais que le Lot, moi je le trouvais assez joli ces temps-ci. Oui, bon, les experts disent que finalement, il n'est pas si haut que ça. Bon, je crois que ce qui est important, c'est bien sûr le niveau de l'eau. C'est évident, pour plein de raisons, pour les cours d'eau, pour la pêche et aussi pour l'eau potable, et notamment en été, quoi. Mais ce qui est important aussi, c'est la reconquête de la qualité de l'eau. Je crois qu'il y a des efforts qui sont faits partout sur le département. Il y a désormais des bons équipements pour le traitement des eaux usées. Mais je ne sais pas où on en est de la qualité des eaux, mais j'ai le sentiment que les choses vont un peu mieux.
Alors, c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a d'énormes efforts qui ont été faits par les collectivités et sur l'ensemble des bassins versants depuis les 20 dernières années. Ça, c'est incontestable. Et bon, il y a toujours à faire, il y a toujours à entretenir les travaux qui ont été faits, parce que il n'y a rien de pire que de faire une belle station d'épuration qui coûte souvent plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros, et puis de ne pas avoir l'entretien au top niveau qui va derrière et que l'investissement périclite finalement assez rapidement. Mais là, de ce point de vue-là, il y a le Conseil général qui a fait, avec son service d'aide d'assistance pour l'assainissement, qui a fait quand même beaucoup d'efforts, et c'est louable. C'est aussi, alors je vais encore tirer... un coup de chapeau au Conseil général, parce que c'est un des derniers départements qui aide bien encore à l'investissement sur l'assainissement. Alors qu'ailleurs, si on se place sur le bassin versant de la Dour-Garonne, par exemple, dans d'autres départements, le Conseil général, ça fait déjà quelques années qu'ils ont arrêté les subventionnements. Alors qu'en Lozère, pour l'instant, encore. Donc ça, c'est plutôt positif, malgré les petits, somme toute, les petits moyens du Conseil général. Donc ça, il faut quand même le dire, et c'est important.
Et la mairie demande qu'à subventionner des travaux sur les berges du Lot. Je me rappelle avoir couvert cet hiver ces travaux sur les bords,
oui,
pour cet aménagement.
Oui, alors à la mairie demande, nous, on a plusieurs actions de ce point de vue-là, d'un point de vue environnemental. Et on est titillé, à juste titre, par les riverains qui ont subi quelques grosses inondations en 1994 et 2003. Donc ils sont toujours inquiets de l'état de la rivière. Il y a d'un point de vue entretien, il y a une équipe qui est environnementale, qui est à la communauté de communes, qui fait toujours l'entretien des berges sur la commune, dans la partie publique, domaine public. Et la commune de Mende, effectivement, on essaye de porter quelques actions, pour l'instant qui restent limitées, mais qui, j'espère, vont se développer dans les mois et les années à venir, pour effectivement limiter l'impact des inondations dans la traversée de la ville. Alors, ce que vous évoquez, c'est effectivement qu'en octobre, on a fait une scarification des atterrissements dans l'espoir qu'il y ait une montée des eaux à l'équinoxe, enfin à l'automne, et qui fasse circuler les atterrissements dans la rivière. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas, puisqu'il n'y a pas eu de montée des eaux. Mais il y en aura bien un moment ou un autre.
Alors, si on revient sur peut-être un peu plus sur la pêche. justement, cette qualité des eaux, elle est sensiblement la même sur tout le département. Est-ce qu'il y a des endroits, enfin, est-ce que c'est quelque chose qui est contrôlé? Est-ce que, enfin, quand on est pêcheur, est-ce qu'on sait là où il vaut mieux aller pêcher si on veut manger son poisson après?
Maintenant, on commence à avoir une très bonne connaissance de l'état, de la qualité des milieux, j'allais dire plus globalement. Donc, il y a le travail qui est fait au niveau départemental, soit par le conseil général, ou soit par l'ARS aussi, qui fait des suivis de qualité plutôt bactériologiques. Nous, on travaille à la Fédération aussi, dans le cadre d'un programme avec le Conseil général, sur le suivi de la qualité en aval des stations d'épuration. Mais on fait aussi un travail beaucoup plus global sur chaque bassin versant de suivi hydrobiologique, donc c'est-à-dire de suivi de la qualité et de la biomasse des poissons qu'on peut avoir dans la rivière, et mais aussi de la qualité de la macrofaune qui peuple les rivières, donc de toute la vie de la rivière. Bon, on s'aperçoit que globalement, alors si on disait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'actions qui avaient été faites par les politiques pour l'assainissement, c'est bien, mais il y a d'autres actions qui parfois nous dépassent un peu et sur lesquelles on peut avoir que difficilement de prise et qui nuisent. Alors on peut aller là vers réchauffement climatique, hein, ou avec des épisodes de plus en plus secs, de plus en plus longs, et puis à côté de ça, des épisodes de montée des eaux qui peuvent parfois être violents et très négatifs pour les milieux. On a des problématiques de température dans les rivières, donc avec des réchauffements l'été de plus en plus importants. Donc tout ça, c'est pas très favorable pour les milieux aquatiques. Les milieux aquatiques, ils aiment bien, enfin, dans notre contrée, dans notre département, ils aiment bien avoir un certain le rythme des climats, quoi. De la neige l'hiver, de la pluie au printemps, l'été qui peut être sec, l'automne pluvieux. Tout ça, ça participe effectivement, mais sans trop d'à-coup. Si on a 6 mois de sécheresse et que derrière on a une crue, ben c'est très mauvais pour les milieux.
Alors, je pêche pas. Et je veux m'y mettre. Comment je fais?
Tu vas venir me voir à la Fédération de pêche, je te donnerai une carte de pêche et éventuellement même je pourrais te faire prendre des cours de pêche, puisque tout ça c'est possible. Donc en fait non, pour prendre le permis de pêche, pour pêcher en France, il faut respecter trois conditions essentielles. La première, c'est payer une taxe piscicole, comme tout bon citoyen qui se respecte et qui veut faire les activités. La deuxième, c'est adhérer à une association agréée, qui est obligatoirement fédérée par la fédération. Et la troisième, c'est avoir l'autorisation de celui à qui le droit de pêche appartient. C'est-à-dire, quand on va sur les cours d'eau de Lozère, on va forcément chez des propriétaires riverains, des propriétés privées. Et donc là, la fédération a une action pour récupérer des droits de pêche. Donc, on n'entrera pas dans le détail aujourd'hui, mais si vous voulez, un jour, je vous l'expliquerai. Et donc ça, c'est les trois conditions essentielles. Donc le prix d'une carte de pêche pour l'année, pour un adulte en 2013, c'est 76 euros. Pour un petit un gamin de moins de 12 ans, c'est 7 euros. Pour une femme, c'est 30 euros. Il n'y a pas de discrimination. Mais elle est positive dans ce cas-là.
Ça fait les coups. Après, notre mag de la semaine dernière.
Ou des cartes aussi à la semaine.
D'accord.
Et nouveauté, on peut acheter ses cartes par Internet.
Voilà, depuis l'année dernière, la Fédération nationale développe un système national de vente des cartes par Internet. Donc nous, on a toujours le double système en Lozère et on continue. Enfin, j'espère qu'on arrivera à le conserver encore longtemps. Un réseau, un maillage départemental de 70 dépositaires environ. Ça peut être un office du tourisme, un bar, un restaurant, tout type de commerce, une épicerie.
Donc, comment on sait, comment on le retrouve?
Assez facilement, soit sur les guides de pêche qu'on édite, soit sur le site internet lozerpêche.com. On peut retrouver la liste des dépositaires, mais globalement, dans tous les chefs-lieux de canton, il y en a, et même dans des villages, dans pas mal de communes.
Et souvent, sur les devantures, c'était inscrit ici, vente de cartes de pêche. Voilà. Peut-être on peut parler des actions mises en place par la fédération tout au long de l'année, parce que là, on est à l'ouverture, tout le monde attend l'ouverture, mais vous n'attendez pas justement cette ouverture pour travailler. Plein d'actions mises en place, et notamment vers les scolaires.
Oui, donc on a développé depuis le début des années 2000, avec les emplois jeunes, qui avaient été mis en place à l'époque, et on a réussi à pérenniser donc un service d'animation qui a double, voire triple vocation. La première, c'est effectivement d'aller en milieu scolaire pour faire diverses actions sur la pêche ou sur la protection des milieux. Il y a toujours les... Alors on propose... une douzaine de modules différents Et les instits, les maîtres d'école, viennent picorer en fonction de leurs besoins dans ce programme-là. Là aussi, tu tombes bien, Philippe, parce que là aussi, on est aidé par le Conseil général dans le cadre du...
Bien fait de venir aujourd'hui, Philippe.
Nous sommes exceptionnels.
Non, mais on est aidé donc par le Conseil général, puisque le Conseil général, dans le cadre de l'ancienne charte de l'environnement, avait mis en place un dispositif financier qui permet effectivement aux écoles de bénéficier d'accompagnement financier. Et donc, on y rentre pleinement dans ce programme. Et on intervient alors à la demande chaque fin d'année scolaire. Pour l'année suivante, on envoie notre programme d'action. Et comme je le disais, les instituteurs ou les écoles, les directrices ou les directeurs viennent picorer dans ce qu'on peut proposer. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on a dans le cadre de nos 19 associations agréées, on a donc 7 qui ont développé les ateliers pêche et nature. Et donc ça, c'est un outil dédié pêche, mais pas que, puisqu'on fait toujours, quand on fait de la pêche, on fait toujours de l'environnement. Hein.
Que le pêcheur, ah, il faut le préciser.
Le pêcheur est le premier protecteur de la rivière. Et donc, on initie des cours dans les différentes techniques de pêche au profit de jeunes ou de moins jeunes. Et en même temps, on en profite pour faire passer des messages environnementaux, quoi, de protection des milieux. Ça, c'est le deuxième aspect. Et puis après, on peut aller sur d'autres programmes, comme la fête de l'eau qu'on avait initiée, qu'on a été obligé d'abandonner l'année dernière, mais peut-être on arrivera à reprendre un de ces jours. C'était dans le cadre de la fête de la science, à des ados beaucoup plus grands. Et c'était une journée de formation spécifique sur ce que c'est une rivière, parce que malheureusement, on s'aperçoit que beaucoup de jeunes ne savent pas ce que c'est une rivière aujourd'hui, ne savent pas ce que c'est un bassin versant. Enfin, c'est un peu désolant. Et donc, on va là aussi vers de la formation, de la sensibilisation sur la protection des milieux aquatiques.
Et vous aviez proposé aussi cet été, si je ne me trompe pas, aussi des ateliers de découverte de la pêche, c'est ça ? Mais c'était peut-être pour l'association de Mende qui pilotait ça.
À Villefort, ouais. Il y avait notamment...
Oui, alors on était là toujours pareil, avec le Conseil jeunes. Général, Philippe t'a bien fait venir. Dans le cadre du programme Été Sport Nature, donc on participait à cette action... Et on proposait aux touristes ou aux locaux, effectivement, la possibilité d'avoir des animations. Alors, l'exemple type, c'est la pêche au Véron dans la traversée au Brissalamande. Ça dure 2 heures le jeudi ou le vendredi matin. Et les gamins peuvent venir s'initier, encadré par un professionnel, et s'initier à la pêche.
Quoi. Et c'est encore un point pour l'attractivité du département. C'est vrai, c'est bien de jouer sur la pêche pour... attirer les familles qui peuvent laisser leurs gamins pendant 2-3 heures pêcher avec des professionnels.
Ouais, alors ça, c'est encore plus marqué, par exemple, sur Villefort, dans un cadre un peu plus, j'allais dire, commercial, même si je ne devrais pas utiliser ce terme, mais avec les accueils pêche et nature qu'on a développés à Nossac et à Villefort. En fait, on a un vrai technicien sur place qui est là-haut sur toute la saison de pêche, donc qui peut conseiller sur toute la saison de pêche, qui peut guider sur toute la saison de pêche, qui peut animer sur toute la saison de pêche. Et l'été, c'est vraiment, vraiment demandé, puisque tous les matins, il y a une animation pêche qui est faite, et les parents viennent avec les enfants et participent à ces animations. Enfin, voilà. Là, il y a effectivement un outil de développement touristique local, parce que les gens qui viennent en vacances à Villefort, eh bien, il y a la plage à côté, on peut les faire taper la bronzette tranquillement, mais il y a aussi une activité qui est un peu plus, j'allais dire, éducative ou ludique. Voilà, enfin, c'est comme ça qu'on arrive à fixer les gens et à conserver, des touristes sur le territoire.
Et on va peut-être finir cette rubrique avec la question essentielle pour nos amis pêcheurs. Y a-t-il du poisson ?
Ben, y en a partout, elles sautent dans les rivières. Non, c'est compliqué, c'est vrai que... Je le disais tout à l'heure, les régimes hydrologiques évoluant, les températures dans les cours d'eau augmentant, les biomasses de poissons sont peut-être moins bonnes que ce qu'elles pouvaient être. Et, oui, elles sont moins bonnes que ce qu'elles pouvaient être il y a 30 ou 40 ans en arrière. Et donc on est avec de l'obligation des fois de faire du soutien. C'est ce qui se passe pour l'ouverture, où on fait des lâchers de truites...
De saumon.
De saumon, oui. Non, de truites panier, j'allais dire, pour les pêcheurs, quoi, pour que les pêcheurs oui. puissent prendre des poissons à l'ouverture.
Alors où?
Ouh là,
ça, on ne le dit pas. Petit, faut pas
si,
le dire. Si,
c'est comme les champignons, ça ne se dit pas.
Ça se dit pas
sur
ça.
Le Loc, on en a mis quelques-unes sur Chanac pour Philippe, parce qu'on sait qu'il prend sa carte de pêche. On en a mis à la Canourgue, à Mende, sur le Tarn, sur les Gardons, sur la Paillère, enfin, voilà, sur plein d'endroits. À la demande des associations, on le fait. Ouais.
Bon, donc en fait, il faut retenir qu'il faut prendre sa carte. Et après, il y aura du poisson.
Si vous prenez votre carte de pêche, au-delà d'aller à la pêche, vous participez à l'action environnementale que défend la Fédération. La Fédération, c'est une association de la 1901 qui vit donc qu'avec les cotisations des pêcheurs, comme beaucoup d'associations, qu'avec les cotisations, et qui, en même temps, a une mission de service public, lui est donnée par la loi, donc de défendre l'intérêt patrimonial des rivières. Donc une mission environnementale, et cette mission, elle est financée en grande partie par les pêcheurs. Donc s'il n'y a pas de pêcheurs, ce que je vous disais tout à l'heure, les pêcheurs sont les premiers protecteurs des cours d'eau, et c'est la seule véritable association qui a une action de fond et pour l'environnement sur les milieux aquatiques.
Surtout quand il y a des pêcheurs comme moi qui attrapent deux poissons par saison.
Mais il en faut.
Encore mieux, oui, il en faut. Monsieur Lacan, vous voulez intervenir?
Oui, je voulais intervenir, moi, sur... parce que j'ai eu pêcher, enfin, je suis un grand pêcheur par ailleurs, mais j'ai été pêcheur, et j'ai un frangin qui a 84 ans et qui pêche, que vous devez sûrement connaître, Pierre Lacan, et qui faisait partie de la Fédération de pêche, et qui pêche depuis son jeune âge, et je pense que la pêche conserve. Et ce que je voulais parler, moi, c'est de la philosophie de la pêche, si je peux me permettre, c'est-à-dire C'est un autre temps quand on pêche ici, enfin en Lozère, dans les ruisseaux, dans les rivières. C'est un autre temps, c'est-à-dire on prend le temps. Et ça a à voir avec ce que j'essaierai de vous dire tout à l'heure par rapport au travail du clown. Ça, c'est-à-dire de prendre le temps, d'être au rythme de la nature. Et moi, pour avoir pêché aussi, à la limite, c'était pas important de prendre des poissons. Ce qui était important, c'était de découvrir.
Exactement.
De découvrir un rythme, le rythme de la nature.
Bien, et bien sur ce, petite coupure musicale pour rentrer justement dans la découverte de ce que vous proposez autour du clown, et puis on verra d'autres choses que propose la compagnie 1, 2, 3 Soleil. Ludovic, qu'est-ce qu'on écoute?
On va écouter le chanteur des White Straps, Jack White, pour Love Intention.
C'est parti.
Slowly stick a knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. And I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me anymore. I want love to walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to split my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, I want change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Thank you.
48 FM Le Mag.
Et nous nous retrouvons pour cette troisième partie du Mag de 48 FM. Et nous accueillons pour cette troisième partie, même si certains se sont déjà exprimés, et c'est tout l'objet de ce Mag, la compagnie 1, 2, 3 Soleil, donc Serge Lacan, Monique Dupré. Voilà, peut-être vous pouvez vous présenter, nous présenter un peu votre compagnie, qu'est-ce qu'elle propose, et voilà, nous dire un petit peu. En quoi ça consiste, voilà. D'accord. J'ai un peu du mal, moi, aujourd'hui.
C'est pas grave. La compagnie 1, 2, 3 Soleil est une compagnie qui existe maintenant depuis 10 ans, qu'on a créée il y a 10 ans en Lozère, qui est une compagnie de théâtre qui est gérée par une association classique, loi 1901. C'est une compagnie qui fait à la fois de la création théâtrale, professionnel et qui a une grande partie de son activité qui est basée sur la formation et l'insensibilisation à la pratique théâtrale et de plus en plus en direction du clown. Voilà. Alors tout ce qui est sensibilisation et formation à la pratique théâtrale ou au clown s'adresse à, enfin, de par mon parcours et ma sensibilité, je vais dire philosophique au sens large du terme, qui s'adresse aussi, et je ne dis pas avant tout, mais aussi aux personnes défavorisées. Voilà. Je pense que le théâtre est un outil d'émancipation fabuleux. La pratique artistique en général, et je peux parler de ce que je connais moi, du théâtre et du clown, et je travaille donc depuis des années avec des personnes en difficulté psychique, des handicapés, en difficulté sociale, etc. Voilà. C'est un des aspects importants de la compagnie, voilà, auquel je tiens beaucoup.
Ah, c'est ce que vous appelez théâtre populaire.
C'est ce que j'appelle théâtre populaire et je revendique, je ne suis pas le premier, il y a des illustres personnes qui en ont parlé avant, notamment Jean Villard et puis d'autres. Oui, je revendique ça et il y a tout un travail qu'on essaye de faire et on voudrait créer sur la Lozère et plus précisément sur Mende une école populaire du théâtre. Voilà. Et donc on est actuellement avec le soutien de la mairie et du conseil régional, et on espère bientôt du conseil général, à la recherche d'un lieu et la création de ce lieu qui serait un lieu à la fois de formation, de sensibilisation et peut-être aussi de diffusion du théâtre. Voilà. Et puis d'autres projets dont je peux parler, peut-être.
Vous pouvez nous préciser, Monique Dupré, combien de gens dans cette compagnie, peut-être sur le côté associatif bénévole, et puis bien sûr sur les professionnels qui la composent aussi.
Sur le côté du nombre de participants aux ateliers qui sont animés à Mende, à Barjac et à Saint-Enémy, on a plus d'une centaine d'élèves maintenant.
Oui, en fait, dans cette... Dans cette centaine d'élèves, on est même à 150 élèves sur le département, mais qui regroupe aussi des jeunes au collège Bourillon à Mende, et aussi des organismes qui travaillent avec les personnes en difficulté. Voilà.
Et au sein même de l'association, vous êtes le seul intervenant artistique ? Non, voilà, c'est ça.
Non, il y a d'autres comédiens salariés.
D'accord.
Au gré des créations, au gré des animations d'ateliers.
Il y a combien d'artistes à peu près qui composent cette compagnie ?
Alors actuellement, on a une création qui s'appelle Au Petit Bonheur la Chance, qui est une création jeune public qu'on a jouée en décembre à Mende, que vous avez peut-être vu.
Au théâtre.
Je l'espère pour vous.
Au théâtre, c'était ou...
C'était à l'Espace des Anges.
À l'Espace des Anges, voilà. Oui, c'est ça.
Et on est en train de travailler sur la programmation, enfin, sur la diffusion pour cette année. Mmh. Donc là, on est deux comédiens et un musicien, et donc un metteur en scène. En fait, l'équipe artistique actuellement se compose de 6 personnes. Voilà. 6 personnes donc, qui sont sur les créations et sur l'animation des ateliers.
Vous avez joué combien de spectacles à ce jour, ou composé du moins avec cette compagnie ?
Voilà. Alors, moi, j'ai créé depuis 10 ans, j'ai créé un spectacle jeune public par an, un spectacle professionnel par an. Donc, il doit être à une dizaine de spectacles professionnels jeunes publics, puisque j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur l'écriture de jeunes publics. Ça ne veut pas dire qu'on va rester que là-dedans, puisqu'on a d'autres projets. Voilà, et donc, c'est ce qui représente à peu près entre 300 et 400 spectacles joués, professionnels, puisqu'après, il y a eu chaque année la création d'une dizaine de spectacles amateurs, issus des ateliers et qui ont été aussi joués plusieurs fois. Voilà. Ce qui fait, ce qui représente pas mal de, moments d'expression théâtrale.
Juste, pardon. Le théâtre populaire, ça, j'imagine que ça sous-entend aussi de ne pas être forcément dans un lieu fait pour, dans un lieu...
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Vous avez joué un peu partout, dans des cafés...
Absolument. Moi, j'ai une formation au départ. Avant, je faisais notre métier, j'étais éducateur. Mais j'ai une formation beaucoup de théâtre de rue. J'étais formé au théâtre de rue et puis ensuite au clown et à la marionnette. Et effectivement, on a aussi pas mal joué dans la rue, dans des lieux complètement anachroniques. On a joué à la gare de Mende, on a joué dans un train, on a joué...
Dans des prisons aussi.
Oui, et puis on doit y retourner là. On doit faire un travail à la prison de Mende là, cet été. Voilà.
J'ai lu que vous aviez aussi, pour vous montrer que j'ai quand même pris le temps de regarder, que vous aviez joué pour l'inauguration de Pollen.
Oui, c'était un grand moment, ça. C'était un très très grand moment. Oui. On a joué, on a créé là, des scènes qui à la fois étaient des scènes qui accueillaient les participants à cette inauguration, et puis des scènes qui venaient un petit peu interroger... prendre de la distance, s'amuser de la création des entreprises en Lozère. Mais ce n'était pas du tout dans le sens de dire que ce n'était pas bien, mais c'était...
Oui, c'était ça, une respiration...
Une autre respiration. Mais ça me permet de dire aussi autre chose par rapport à notre travail, c'est que dans le mot théâtre populaire, populaire derrière, il y a le mot peuple, et ce que j'essayais de dire tout à l'heure hein, sur le premier débat... c'est que pour moi, la culture est une et vient nous interroger chacun. La pratique culturelle, la culture, le livre, la peinture, le théâtre, la musique, etc., est quelque chose qui nous déplace, qui doit nous déplacer. Autrement, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Et ce travail de théâtre populaire, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pour que le peuple, pour parler au sens large du terme, se déplace, grandisse, s'émancipe, voilà, et se dise, que chacun se dise, oui, moi, je suis beau, je suis intelligent et j'ai des choses à dire. Et que souvent, quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont à dire, moi, c'est pas intéressant ma vie, mais si ta vie, elle est intéressante. Et si la culture et l'art en général, peut permettre à la personne de dire, mais moi, j'existe et je suis aussi intéressant, pour moi, ça se passe à ce niveau-là, et notamment avec des personnes, on va dire, cassées ou en difficulté. Et le travail du clown prend tout son sens, là,
Et justement, le spectacle que vous diffusez cette année, j'imagine qu'il intègre un peu ces ingrédients-là.
Absolument.
et aussi la dimension clown.
Absolument, oui.
Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu de mots, même si certains, effectivement, l'ont déjà vu, peut-être que d'autres le reverront dans le cadre de programmation, peut-être d'autres lieux en Lozère.
C'est bien que vous m'interrogez sur ce texte. Donc, c'est un texte d'une auteure... jeune public qui s'appelle Annie Agopian, qui est une référence en littérature jeune public et qui est venue voir le spectacle d'ailleurs ici. C'est un tout petit texte, c'est un texte pour enfants. Et ce texte, il raconte simplement une chose, c'est un homme qui se lève tous les matins et à qui il arrive que des catastrophes. Je vous le fais en résumé, hein, jusqu'au jour où dans la rue, c'est une métaphore et c'est symbolique, il trouve un nez de clown. Et à partir du moment où il met ce nez de clown, la vie change pas, mais son regard sur la vie change. C'est-à-dire qu'il a un autre regard sur la vie. Voilà. Et voilà, la définition, pour moi, ça serait ça, la définition de la culture. C'est que ça nous permet de déplacer notre regard sur la vie, sur notre propre vie, notre regard sur l'autre. Voilà. Et c'est tout le sens de notre travail et de notre démarche artistique.
Il est programmé prochainement, ce spectacle ?
Pas sur la Lozère.
Pas sur la Lozère. Donc on ne le trouvera pas sur le portail culturel ?
Non, pour l'instant, mais...
C'est pas exclu.
C'est pas exclu, on fait appel. De toute façon, pour qu'il soit programmé, c'est toujours le même problème. On a toujours ce problème-là, et c'est pas lié à notre compagnie. C'est beaucoup de compagnies qui n'ont pas un lieu, et j'aimerais qu'on puisse parler de ce lieu après aussi, si on a le temps. C'est que pour être programmé, il faut que les programmateurs voient le spectacle. Et il se trouve, moi, dans ma pratique, je m'en aperçois que les programmateurs, on va dire régionaux ou nationaux, pour venir à Lozère, c'est pas évident, ils se déplacent pas comme ça, quoi. Si vous n'êtes pas une référence ou si vous n'êtes pas soutenu par exemple, les scènes croisées, pour y revenir deux secondes, c'est difficile pour les programmateurs de se déplacer. Donc là, actuellement, on est en train, on va vraisemblablement le jouer dans la Drôme, à Romans, et puis sûrement aussi dans le Tarn, à Carmaux, et on espère que là...
des programmateurs.
Et par le biais d'Internet, ça ne marche pas de nos jours de mettre la pièce.
Elle y est, on a une vidéo. A priori, vous savez.
Il faut faire un travail après pour amener.
J'ai un ami programmateur qui me disait qu'il recevait 150 demandes par jour.
Et oui.
Par jour.
Espérer que les 5 premières minutes soient bien.
Voilà, c'est clair. Quoi. Voilà, donc, et puis les 3 quarts du temps, il n'y en a plus. Quoi. Voilà.
Alors peut-être juste avant de revenir sur le projet de lieu que vous évoquiez tout à l'heure, peut-être dire deux mots, parce que je pense que c'est aussi bien en lien avec effectivement cette activité-là et de diffusion, c'est le stage de clown que vous proposez
ce week-end. Oui, en fait, ça fait déjà plusieurs années que moi j'essaye de travailler le clown, puisque par ailleurs, je suis formateur dans une école à Isère, formateur de clown et responsable au niveau national des clowns qui interviennent à l'hôpital. Je suis à la fois formateur et directeur artistique de la compagnie Clowns Hôpitaux, qui est une compagnie nationale. Et donc, moi, j'essaye, dans mon travail théâtral, dans mes ateliers, d'introduire la notion du clown. Alors, la notion du clown, c'est une posture. C'est pas simplement mettre un nez de clown et faire le clown, comme on dit de façon souvent péjorative. C'est une posture, c'est-à-dire c'est travailler sur la présence. Travailler sur la présence, c'est-à-dire quelle qu'elle soit, mais je suis ce que je suis, mais l'important, c'est que je sois présent. Voilà. Et l'outil clown permet ça. Et dès l'instant où il y a cette présence sur scène, pour ne parler que de la scène, tout est possible. C'est-à-dire que vous êtes en réceptivité, vous êtes en écoute de ce qui se passe autour. Vous n'êtes pas en représentation ou en occupation d'un espace, mais en observation et en écoute. Voilà. Et donc, tout ce travail que j'essaye de faire depuis des années, donc ce week-end, fait partie de ce travail-là. Et ce week-end, donc, on organise un stage clown, de découverte du clown, à Barjac. Voilà. Il y a 12 places, et pour l'instant, il y a 11 places de prise, donc il reste une place. Et je fais appel au dernier.
Le 12e, s'il nous entend. Le 12e,
peut-être mon voisin, Philippe Rochoux, pourrait peut-être.
Il est à la pêche, il ne peut pas.
On peut dire que ça s'adresse à tout le monde, y compris aux personnes qui n'ont jamais pratiqué ni le théâtre, ni le clown, bien entendu.
Et pas forcément à des enfants, on est bien d'accord.
C'est à partir de 15 ans.
À partir de 15 ans.
Est-ce qu'on peut revenir sur
notre
souci qui est de trouver un lieu?
On va peut-être se terminer sur ça, d'ailleurs. Oui.
Un lieu qui serait un peu la base de développement de nos nombreux projets. Ça fait longtemps déjà, mais on aimerait trouver un lieu sur Morne, mais pourquoi pas aux alentours, suffisamment grand pour pouvoir pratiquer des ateliers amateurs, travailler en professionnel également, un lieu assez vivant où il pourrait se passer des tas de choses. Donc on fait un appel, ce coup-ci pas au peuple, mais aux propriétaires de locaux disponibles. Je laisse Serge peut-être un petit peu faire le descriptif en nombre de mètres carrés, là, sur le côté technique.
Le côté technique, oui, enfin bon, on a besoin d'un lieu. Mais ce lieu-là, il servirait effectivement à tout ce qui est atelier, formation, diffusion de nos créations, mais aussi diffusion peut-être aussi, permettre aussi à toutes ces troupes amateurs qui existent sur le département et qui n'ont pas de lieu ni pour répéter, ni pour jouer, ou très peu, hein, même s'ils sont accueillis dans les villages. C'est de créer un peu un lieu, alors je reprends ce terme-là de respiration, quoi, qui respirerait la culture, où on pourrait pousser la porte et venir quand on veut rencontrer des gens qui travaillent dans la culture et qui vivent avec la culture. Que ce soit le pépé qui passe et qui dit « tiens, il y a du bruit, il y a de la chanson, il y a de la musique, je viens voir », etc. Un lieu ouvert. Je dis des fois un lieu subversif, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire où il y a tout un bouillonnement. Et je voudrais aussi juste dire que par rapport au travail que je peux faire ailleurs, notamment à Isère, dans cette école de clowns, on reçoit 50 clowns professionnels par an qui se forment soit sur la création d'un spectacle, soit sur le travail à l'hôpital. On est en train de réfléchir à créer une autre antenne dans une autre région. Et bien entendu, que moi j'ai envie qu'elle se passe en Lozère, mais pour ça il nous faut un vrai lieu de travail, quoi. Et il y aurait beaucoup de gens qui viendraient. Et puis, on peut associer ce travail artistique à bien d'autres activités écologiques qui existent.
Peut-être vous pouvez vous rapprocher aussi d'autres compagnies. Je me rappelle avoir reçu dans cette émission la compagnie du Lézard qui avait ce même problème à Badarou, qui recherchait un lieu.
Bien sûr, mais il y a plein de choses à inventer. Et c'est à partir du moment aussi où on a le soutien du politique, hein, voilà, et la reconnaissance du politique.
Très bien.
Voilà, l'appel est lancé donc aux propriétaires, l'appel est lancé aussi aux autres compagnies et aux éventuels soutiens pour que ce projet puisse se concrétiser. En tous les cas, voilà, vous avez lancé cet appel sur nos ondes aujourd'hui. Alors, c'est la fin de notre magazine. On a finalement duré un petit peu plus du temps imparti. Et donc,
trois sujets culture. Ouais. Nico va être vert.
Voilà, donc j'ai vraiment trop médit sur lui au départ. Mais bon, voilà. Ce magazine sera rediffusé, bien entendu, jeudi à 18h11. Jeudi, ça sera également un nouveau numéro de Actuel et lui à 12h30 qui sera rediffusé mardi soir prochain. Et on va simplement se quitter en vous rappelant les trois sites internet de nos invités d'aujourd'hui. culture.lozère.fr, c'est pour le portail culturel du département. lozèrepêche.com, c'est le site de la Fédération de pêche où on retrouve toutes les infos et on peut acheter sa carte de pêche. Et 1, 2, 3 soleil, alors là il faut un peu l'expliquer, 1, 2, 3 écrit en lettres, soleil au pluriel.com. C'est le site de la compagnie, vous pouvez retrouver justement l'ensemble du projet, les différentes actions qui ont été menées et les différents spectacles, enfin voilà. Donc vous pourrez retrouver toutes ces infos, bien entendu, donc sur Internet. Vous pouvez également sur Internet, sur le site de 48FM, réécouter cette émission en podcast. Voilà, vous pouvez aussi la commenter, vous pouvez également faire vos retours sur les réseaux sociaux de 48FM. Merci de votre écoute et à très bientôt sur 48FM.